Bonjour Philippe, on s'est rencontrés ici au village des associations de Lens. Et vous, vous faites partie d'une association de yoga qui s'appelle Patanjali. C'est un courant du yoga ?
Disons que Patanjali, c'est un être mythologique dont on n'est pas certain qu'il ait existé réellement, si ça recouvre une seule personne ou pas plusieurs personnes. Mais en tout cas, ils ont été à l'origine d'écrits qui ont formalisé le yoga à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'est un peu imprécis.
D'accord, donc ça fait partie des doctrines classiques du yoga, finalement.
Ça fait partie tout à fait des doctrines classiques du yoga.
Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, un petit peu, sur votre pratique du yoga dans le club ?
Et en fait, nous avons reçu un enseignement classique de yoga en France et en Inde. Pendant à peu près une dizaine d'années, nous avons une formation donc de professeur de yoga et nous avons également suivi un cursus de yoga thérapie.
D'accord.
Vous parlez du yoga classique.
Oui.
Alors je vais vraiment poser des questions en tant que personne qui connaît pas trop.
Voilà. Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a du yoga qui n'est pas classique ? Est-ce qu'il y a plusieurs courants de yoga ? Est-ce que vous pouvez un peu nous donner une sorte de paysage de ce qui existe pour vous ? D'après vous, qu'est-ce que...
À l'origine, le yoga vient d'Inde. C'est une discipline traditionnelle, spirituelle, qui s'est développée à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ et qui a été transmise de maître à élève. Pendant plusieurs c'est une transmission orale, c'est une transmission directe pendant de nombreuses et qui a été mis en écrit, c'est le sanskrit, donc avec cet être mythologique dont j'ai parlé au début, qui est le nom de notre association Patanjali.
Et alors
en fait les textes anciens du yoga ont donné lieu à différents courants au cours de la vie du yoga et de sa renaissance en quelque sorte au XXe siècle qui s'est développé et qui a donné donc différents types de yoga avec peut-être une démarche un peu plus commerciale dans cette affaire qui fait que on a même été jusqu'à essayer de breveter du yoga aux États-Unis, choses comme ça. Donc en fait, nous, on est une association où on essaye d'être au plus près de l'enseignement primitif du yoga, c'est-à-dire désintéressé. Et notre association les professeurs qui sont enseignants dans notre association ne sont pas des gens qui vivent du yoga directement. Ils sont donc en plus de leurs moyens de subsistance, en quelque sorte, enseignants de yoga et ils enseignent à côté.
Et quel est le prix d'adhésion à votre association ou bien de participation à des séances au cours de l'année ?
Alors, nous demandons à ce que les adhérents à notre association s'engagent pour une année. Et nous avons donc fixé un prix à 120 euros par an. Pour toute l'année scolaire, en fait, puisque en fait nous dépendons de la disponibilité des salles qui sont mises à notre disposition par la municipalité, et tous les élèves ont le droit à aller à tous les cours qu'ils veulent auxquels nous donnons, et nous avons actuellement 4 professeurs. Il y en a un qui est en formation, donc un cinquième, et les gens peuvent aller à tous les cours de notre association, de nos différents programmes.
C'est en semaine, en week-end ? Alors, ça peut être en journée ou en soirée ?
C'est en semaine. En général, dans l'après-midi, le mardi, on a un cours en après-midi à la salle Carpentier. En soirée, à 18h, toujours à la salle Carpentier. Il y a un cours à la salle Carnot le jeudi, donc à Lens. Et il y a un autre cours le vendredi soir à 18h à la salle Carpentier également. Donc c'est le stade Carpentier.
Moi, j'avais juste
notre association aussi est prestataire pour d'autres associations qui ont besoin de professeurs de yoga, et nous travaillons également sur Aix-Noulette, Beauvais, etc.
C'est-à-dire qu'il y a des villes qui vous demandent pour
des associations,
d'accord.
Qui sont pas des associations de yoga, mais qui veulent
une séance de yoga. Moi, j'avais peut-être une question, revenir un peu en arrière sur ce que c'est que le yoga, si ça vous va. Je ne sais plus les mots que vous avez utilisés, mais j'ai l'impression qu'il y avait cette question d'un peu d'état d'esprit, de philosophie d'être.
Oui.
On pense souvent au yoga comme la partie, on va dire, un peu de posture. Est-ce que vous pourriez définir ce que vous proposez comme yoga, et un peu les objectifs que vous avez en proposant ces cours?
Donc, le yoga est une discipline qui est difficile à définir avec le sens, on va dire, commun, philosophique ou autre. En fait, c'est une discipline expérimentée. C'est-à-dire que on pourrait très bien... Il y a des gens qui s'intéressent au sanskrit, qui lisent et traduisent les textes normatifs du yoga, mais qui n'ont jamais pratiqué le yoga. Et donc, ils ont une vision, on va dire, de type savoir, mais ils n'en ont pas l'expérience. Et en fait, l'expérience du yoga, c'est je pratique sur le tapis toutes les disciplines, toutes les variantes de disciplines que le yoga met à disposition. Et donc, c'est la différence fondamentale, c'est expérimenter. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un savoir, et avec l'expérimentation, vous avez une connaissance. Et c'est la différence entre savoir et connaissance qui est importante, et quelque chose qui se vit réellement au sens et au présent.
Est-ce que vous pourriez donner des exemples, si vous avez eu des retours de gens qui participent à vos ateliers, de pourquoi les gens viennent faire du yoga?
Pourquoi est-ce qu'on vient faire du yoga? Eh bien, écoutez, si vous cherchez la manière dont vous pourriez contrôler votre mental, contrôler vos performances, régler vos problèmes d'émotion ou de pathologie ou de choses comme ça, vous pourriez vous dire le yoga m'intéresse, parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est le mode d'emploi de la machine. Donc accéder aux manettes de réglage de la machine, c'est quand même intéressant. Et donc il y a différents outils pour arriver à ça. Et un des principaux, c'est la respiration. Je dirais même que c'est un outil essentiel.
Oui, il y a énormément de choses à explorer avec la respiration, j'ai l'impression, effectivement. Moi qui ne m'y connais pas en yoga, c'est les choses que j'apprends de l'extérieur, c'est les énormes avancées que font les gens en apprenant à respirer, en passant du temps à respirer.
C'est un paradoxe. Si vous arrêtez de respirer 3 minutes, ça ne marche plus. Donc c'est une fonction fondamentale du corps humain. Et si on l'optimise, si on l'étudie, si on regarde ça de près, on peut se dire, tiens, mais il y a des choses à faire, il y a des choses à... Voilà. Je dirais, moi, pour moi, la respiration, en tout cas le contrôle du souffle, en fait... il y a contrôle du souffle, ça veut dire c'est pas pareil que la respiration tout venant. Pour parler, on est obligé d'utiliser l'expiration. On ne parle pas sur inspiration. Donc automatiquement, nous sommes habitués à expirer longtemps, parce que la respiration est au service de la parole. Mais maintenant, si je vous dis d'expirer longtemps comme ça, vous allez être embêté, vous savez pas comment on fait. Et du coup, c'est ça le sujet, en fait. Si je dis, je veux faire une longue expiration et je fais un exercice de longue expiration, comment je vais faire arriver à comprendre ça aux gens? Eh bien, on peut utiliser le chant, par exemple. Et on retourne la proposition. C'est le chant qui devient le support pour un exercice de respiration, d'expiration longue.
Ben, merci pour toutes ces explications. Voilà. J'espère que cette interview va donner envie à nos éditeurs, auditrices de venir passer faire un tour dans votre club de yoga.
Est-ce que vous avez des supports sur lesquels les gens peuvent aller pour prendre des nouvelles, prendre votre contact?
On a une association avec un site internet, patanjaliyoga.fr.
C'est dans la boîte.
À Lens.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.